par le fils de Kurt Schwitters, qui s'appelait Ernst. C'est Kurt Schwitters que vous voyez à l'image. Et donc, Kurt Schwitters, reprenant le geste du golfeur, donne un coup de bâton dans le lac et fait jaillir une gerbe acérée que la photographie fige à la manière d'une sculpture. Par ce geste qui tient du burlesque, Schwitters semble briser le miroir du lac. Il sort du rapport mimétique et spéculaire que l'art entretient avec la nature pour entrer dans un autre rapport qui consiste en un jeu de force. La contemplation cède le pas à l'action, à la transformation ou à la participation. Schwitters semblant indiquer par là une autre manière d'entrer en communion avec la nature qui s'éloigne de la nostalgie. S'il y a une nostalgie dans cette image, c'est peut-être plutôt la nostalgie de l'enfance, une certaine espièglerie. Mais ce qui m'intéresse, donc, c'est ce décrochage entre l'image du miroir, qui est très, très liée à l'idée de ce que j'appelle le rapport mimétique, c'est-à-dire la reproduction de la nature, la description fidèle de la nature, qui alimente l'esthétique du XVIIIe et du XIXe siècle. Et d'autre part, le caractère, ce que j'appelle le caractère spéculaire du rapport au paysage, c'est-à-dire le fait que finalement, construisant une image du paysage, le spectateur se reflète lui-même, c'est-à-dire projette sa propre sensibilité dans la nature. Là, on n'est plus dans un rapport de contemplation, on est dans un rapport d'action, et qui est peut-être plus moderne, je ne sais pas, mais qui moi m'intéresse pour cet écart aujourd'hui où on critique beaucoup notre conception de la nature, notamment, bon, je ne sais pas si vous connaissez les textes de Philippe Descola qui parle de la manière dont l'Occident projette une image sur la nature qui est très différente de la manière dont la nature est perçue dans d'autres sociétés. Enfin, voilà, il me semble qu'il y a là un choc entre deux attitudes que je trouve intéressant. Mais revenons à Thomas Gray. Alors, qui était Thomas Gray? C'est un poète anglais qui est né en 1716 et mort en 1771. Il est donc à peu près l'exact contemporain de Jean-Jacques Rousseau. Il est considéré comme un des plus grands poètes anglais du XVIIIe siècle et pourtant il n'a publié que 13 poèmes de son vivant, dont le plus célèbre s'intitule « Élégie écrite dans un cimetière de campagne ». Il a refusé notamment le titre de poète lauréat, c'est-à-dire de poète officiel du Royaume-Uni. Et bon, dans sa jeunesse, il a fait le grand tour en France, en Suisse et en Italie. Et puis, il est rentré en Angleterre où il s'est installé à Cambridge. Et là, il a mené jusqu'à la fin de sa vie une sorte de vie d'étudiant éternel, extrêmement érudit. Enfin, il a écrit sur la rythmique, en poésie, sur les dialogues de Platon, sur la géographie de l'Inde et de la Perse, sur la politique. Il a écrit une très très importante correspondance. Et à la toute fin de sa vie, il a été nommé professeur d'histoire moderne à Cambridge. Et bon, malgré sa santé fragile, il consacrait ses étés à des voyages en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse. Et donc le récit dont je vais vous lire un extrait est en fait un récit qui est tiré de son deuxième voyage dans la région des lacs. Le texte a été publié après sa mort dans sa correspondance, donc c'était pas un texte qui était destiné au public. Il s'agit d'un récit qui était adressé au docteur Wharton, qui devait l'accompagner dans ce voyage, mais qui a été pris d'une crise d'asthme et qui a dû rebrousser chemin. Donc ce texte que je vais vous lire, ce n'est pas une œuvre poétique, mais c'est un document. Mais tout en étant un document, c'est un texte qui a contribué largement à forger la culture du paysage en Angleterre, en suscitant l'admiration des amateurs de paysages pittoresques. Voici comment son éditeur, William Mason, le présente dans la petite préface, dans la correspondance. Il y a eu de nombreuses relations des lacs du Westmoreland et du Cumberland avant et après que ceci fut écrit. Toutes mieux calculées pour plaire aux lecteurs passionnés de ce qu'ils appellent la belle écriture. Toutefois, ceux qui peuvent se satisfaire d'une élégante simplicité de narration, ceux dont je me flatte, trouveront celle-ci à leur goût. Donc c'est justement cette simplicité dans l'écriture, cette écriture descriptive au plus proche de l'expérience et qui progresse comme au rythme du voyage, qui fournira aux lecteurs un modèle pour l'expression de leur sensibilité au paysage. Un paysage qui est saisi sur le vif au fur et à mesure de la promenade, au fur et à mesure qu'il se présente donc aux promeneurs, dans toute sa diversité géographique, à la fois humaine et naturelle, et sensible et objective. Donc je vais vous lire un extrait de cette traduction, qui n'est pas terminée. Deux courts passages qui correspondent au début du voyage de Thomas Gray, et puis un passage plus long, on verra jusqu'où on peut aller. Un passage plus long, en fait je crois qu'il est l'heure de s'arrêter. Est-ce que je peux prendre le temps de vous en lire un peu tout de même? Oui. Un passage un peu plus long, on verra jusqu'où ça nous mène, dans lequel Thomas Gray décrit cette vallée, esquissée par Turner dans ce carnet d'aquarelle, qui est donc la vallée de Borrowdale dont je vous ai parlé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le texte de Thomas Gray est lui-même une esquisse, l'aquarelle de Turner. Et ma traduction elle-même est une esquisse. Mais je vais passer un écran noir pour vous lire ce texte. 30 septembre 1769. Vent au nord-ouest, nuages et éclaircies. À 1,5 mile de Brough, sur une colline, une grande armée a établi son campement. Sur la gauche s'ouvrait une belle vallée avec de vertes prairies et des haies, une maison de maître dépassant d'un bosquet de vieux arbres. Lorsque je fus plus près, apparut une myriade de chevaux et de troupeaux sur la route elle-même et dans les champs alentours. Un courant vigoureux se précipitait en travers du chemin, des milliers de gens en fort bonne santé dans leur appareil le plus coloré. Les fermiers et leurs familles, les écuyers et leurs filles, hâtant le pas de tous côtés depuis les vallons et les fels, étincelant sous le soleil, se pressant pour rejoindre la multitude. Tandis que les sombres collines, à la cime desquelles la brume s'accrochait encore, offraient un contraste à cette scène animée et joyeuse, laquelle se prolongeait sur 2 miles environ, le long de la route, la foule qui s'en approchait s'étendant aussi loin qu'Appleby. Lors de l'ascension de la colline au-dessus d'Appleby, les bois épais qui s'y accrochent, le vaste cours de l'Éden serpentant plus bas, rapide, clair, toujours aussi pleine, ainsi que des vues sur le château et la ville donnèrent fort à faire au miroir. Mais le soleil faisait défaut et le ciel était couvert. L'avoine et l'orge, partout coupées, n'avaient pas été rentrées. Passé Kirkbysore, la maison de Sir William Dalson à Ancornbank, Winfield Park, Hampton Oaks, le pilier de la comtesse, le château de Brougham, Mr. Brown, l'un des six clercs, sa grande maison neuve, passé l'Éden et Lymoth, prononcé Iman, avec sa verte vallée, et à 3 heures, j'ai dîné avec Mrs. Buchanan à Penrith, de Truite et de Perdrix. Dans l'après-midi, j'ai marché 1 mile jusqu'au sommet de la colline de la Balise, vu les parcs de Winfield et Lowther, et par une ouverture dans le sein des montagnes, dont le docteur a gardé bonne mémoire, le lac d'Ulswater, avec les sommets escarpés d'une centaine de collines sans nom. Cela, vers l'ouest et le sud. Vers le nord, une vaste étendue de plaines noires et mornes. Vers l'est, Crossfell, invisible toutefois, à travers les brumes et les brumes et vapeurs qui flottent autour de lui. 1er octobre, vent au sud-ouest, un jour gris d'automne, air parfaitement calme et doux, suis allé voir Ulswater, éloigné de 5 miles. Enfin, je passe la description. 1er octobre 1769, rien qui soit couché sur nos cartes ne ressemble à la figure d'Ulswater. Bon, je passe encore la description. 2 octobre, vent au sud-est, le ciel se dégage, brume sur Crossfell, mais le contour des autres collines très distinct. Parti à 10 heures pour Keswick, par la route que nous avions prise en 1767. Vu la ville et le château de Greystoke sur la droite, qui se trouve à seulement 3 miles d'Ulswater, par-delà les Fells. Traversé Penraddock et Threlcote, au pied de Saddleback, dont le soleil dorait les flancs ravinés, tandis que l'ombre des nuages, qui faisait voile à ses côtés, empourprait tristement son sommet. La large et verte vallée de Gardies et Lowside, un courant rapide scintillant parmi les chaumières et les prairies qui s'étendent sur la gauche, et la bien plus belle, mais plus étroite, vallée de Saint John s'ouvrant sur elle. Hilltop, la vaste, quoique basse, demeure des Gascarth, une ferme aujourd'hui, juchée sur une éminence parmi les bois sous un fel escarpé, voilà ce qu'on apercevait le plus aisément. Et sur le côté, un grand rocher semblant une tour antique, chancelante et prête à s'effondrer. Longé le flanc du Skiddo et de son petit nommé Latter Rig, et vu depuis une éminence, à une distance de 2 miles, la vallée de l'Élysée dans toute sa verdure, tandis que le soleil jouait sur le sein du lac, illuminant toutes les montagnes de son éclat. Dîner vers 2 heures au Queen's Head, puis traîner seul jusqu'au presbytère. Suis tombé à la renverse dans une allée boueuse, mon miroir ouvert dans une main, mais n'est brisé que mes doigts. Je suis resté malgré tout, et j'ai vu le soleil se coucher dans toute sa gloire. Le 3 octobre, vent au sud-est, une journée paradisiaque. Levé à 7 heures, je suis parti à pied vers Borrowdale, sous la conduite de mon logeur. L'herbe était couverte de givre qui se mit bientôt à fondre et s'exhala en une fine vapeur bleutée. Tandis que je traversais les prairies, je fus frappé par une diversité de vues entre les collines, sur le lac et les îles, dont la perspective changeait tous les 10 pas. Je laissai derrière moi Cockshut et Castle Hill, que nous avions gravis autrefois, et tiré jusqu'au pied de Valacrag, dont le sommet nu et rocailleux, tranché perpendiculairement à plus de 400 pieds, comme je le suppose, surplombe sévèrement le chemin. Là, notre sentier incline vers la gauche, puis à mesure que le sol couvert d'une clairière d'arbres et de buissons épars s'élève au bord de l'eau, s'ouvre de chaque côté la vue la plus délicieuse que mes yeux aient jamais contemplée. Derrière vous se dressent les hauteurs magnifiques de Valacrag. En face s'étendent les bois épais et suspendus de Lord Egremont et la vallée de Newland, dont les champs verts et souriants sont blottis sous de sombres falaises. À gauche, les mâchoires de Borrowdale et ce chaos furieux qui roule confusément montagne après montagne.